Bon.
Voilà, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais d'abord vous saluer très fraternellement, que la grâce et la paix nous soient données à tous et nous permettent aussi de nous réjouir ensemble à l'écoute de la parole de Dieu et dans la participation au repas du Seigneur. Merci beaucoup à Adrien de nous avoir fait entrer dans la présence du roi des rois, et vous allez voir que ma prédication peut entrer dans la foulée de cette introduction donnée par Adrien. Je vous invite à méditer ce matin dans l'Épître aux Colossiens, un texte qui nous bouscule peut-être un peu, mais voilà, c'est le rôle de la parole de Dieu de nous bousculer aussi. Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 à 10. Colossiens 3, 1 à 10. Frères et sœurs, du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Vous êtes mort, en effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette cupidité qui est une idolâtrie. Voilà ce qui attire la colère de Dieu. Voilà quelle était votre conduite autrefois, ce qui faisait votre vie. Maintenant donc, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, injure, grossièreté sortie de vos lèvres. Plus de mensonges entre vous, car vous vous êtes dépouillé du vieil homme avec ses pratiques et vous avez revêtu l'homme nouveau, celui qui, pour accéder à la connaissance, ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur. Amen. Alors, frères et sœurs, je faisais remarquer la semaine dernière que dans nos églises évangéliques notamment, mais pas seulement, rassurez-vous, certains avaient du mal à exprimer le contenu de leur foi chrétienne, à rendre compte, comme dit l'apôtre, de l'espérance qui est en eux. Qui est Jésus? Comment expliqueriez-vous comme ça qui est Jésus pour vous? Que signifie être sauvé? Est-ce que vous auriez le talent de John Knox pour expliquer le salut par la grâce? Merci d'avoir parlé de mon cher John Knox qui a évangélisé mes ancêtres écossais. Comment vivre sa foi, etc. Et nous vivons de fait dans une société où les notions religieuses sont devenues floues. On préfère des spiritualités peu ou mal définies, en lien avec la nature, en lien avec des énergies positives, avec des esprits indéfinis, avec un certain bien-être. On aime une spiritualité qui fasse du bien. C'est embêtant parce que l'Évangile prêche la croix. Ou bien, voilà, on préfère toutes ces choses-là à une foi structurée par des affirmations qui pourraient apparaître morales ou dogmatiques. La morale et la dogmatique ne sont pas à la mode aujourd'hui. Paul écrivait sa lettre aux Colossiens, j'ai de la visite, à des chrétiens immergés dans un environnement spirituel qui pourrait ressembler au nôtre. Les chrétiens de la ville grecque de Colosse se laissaient séduire par des enseignements étranges sur les anges, l'ésotérisme, les mystères de puissance céleste. Enfin, on ne sait pas très très bien ce que c'était, mais ils étaient séduits par tout cela. Alors Paul rappelle à ses amis, un peu comme John Knox au XVIe siècle, que leur foi se fonde en Christ seul.
Il est en train de trouver des petites vis, là. Il ne faudrait pas qu'il mette ça à la bouche.
Donc, leur foi se fonde en Christ seul. Et l'apôtre a le génie de définir la foi et la vie chrétienne sans dureté, sans rigidité, mais dans l'élan joyeux d'une vie tournée vers celui qui nous a sauvés et qui est pour nous la source d'une vie nouvelle. Débarrassez-vous de tout cela, dit l'apôtre. Ah. Alors c'est étonnant, parce que ce petit extrait de l'Épître aux Colossiens, qui résume, comme souvent chez Paul, l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire la bonne nouvelle d'un salut gratuitement offert, sola gratia, la grâce seule. Et pourtant, ce passage contient l'une des plus fortes exhortations de la Bible à vivre dans la pureté et la sainteté. L'évangile n'est-il pas un joyeux message de libération ? Or ici, les exhortations de Paul vont encore plus loin que celles de Moïse ou des prophètes de l'Ancien Testament. Ce n'est plus seulement l'adultère qui est condamné, mais toute forme de débauche, de dérèglement sexuel. Plus fort encore, Paul vise ce qui se passe dans le cœur des gens. Il met en garde contre tout désir mauvais. Ah, il se rappelle probablement des paroles de Jésus. Jésus aussi avait dit « Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. » Alors rappelons en passant que les mœurs dans la Grèce du 1er siècle étaient proches de ceux que nous connaissons dans notre société. Pas facile, hein ? Et puis, ce n'est plus seulement le vol qui doit disparaître de la vie chrétienne, mais la cupidité, dit Paul, l'amour de l'argent, le désir de posséder toujours davantage. La cupidité ici est même assimilée à l'idolâtrie. Jésus aussi avait dit, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Là encore, regardons notre société, nos manières de vivre, particulièrement dans notre monde occidental. Et on peut se dire que les êtres humains n'ont pas fait de progrès depuis l'Antiquité en matière d'avarice, de soif d'amasser, et cela au prix d'énormes inégalités sociales. Et ça ne s'arrange pas. Ce n'est plus seulement le meurtre qui est interdit dans cette loi nouvelle rappelée par Paul, mais, vous l'avez entendu, la colère, les injures, la grossièreté, le mensonge et toute forme de méchanceté, dit l'apôtre. Et là encore, il rejoint Jésus, qui avait mis en garde ses disciples, Jésus qui avait dit « Quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Celui qui dira à son frère « Imbécile » sera justiciable du Sanhédrin. » Alors, frères et sœurs, pour que Paul prenne la peine de rappeler tous ces éléments de la vie nouvelle en Christ, c'est probablement parce que tout cela n'allait pas de soi à Colosse. Des chrétiens se laissaient séduire, comme aujourd'hui, par la permissivité, par l'érotisme, par l'appât du gain, par la violence, par les attitudes méprisantes de la société ambiante. Et dans la France du 21e siècle, ces remarques de l'apôtre paraissent dépassées, difficiles à accepter, quasiment impossibles à assumer et politiquement incorrectes. Alors, frères et sœurs, seriez-vous venus à l'église ce matin pour que le pasteur vous fasse la morale ? Après tout, il faut vivre avec son temps, c'est ce qu'on entend. Mais Paul, en rédigeant sa lettre, en rappelant les paroles de Jésus, voulait-il faire la morale ? Détaille-t-il, l'apôtre Paul, à l'intention de ses frères et sœurs de Colosse ou à notre intention, une liste de règles de savoir-vivre, de comportements à rejeter ou à adopter ? Ce serait vraiment étrange quand on sait que Paul proclame ailleurs que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce, Et Paul vient lui-même d'écrire dans cette même lettre aux Colossiens. Pourquoi vous pliez à des règles, comme si votre vie dépendait encore du monde? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Paul dit, voilà bien les commandements et les doctrines des hommes. Alors effectivement, Paul n'est plus sous la loi. Et sa prédication consiste à le rappeler envers et contre tout, partout où il passe. Paul ne se situe plus dans le registre du faire, mais dans une autre réalité, la réalité de l'être nouveau en Christ. L'être nouveau en Christ. Paul aimerait simplement que ses correspondants de Colosse deviennent dans les faits ce qu'ils sont déjà par la grâce de Dieu. Deviennent dans les faits ce qu'ils sont déjà par la grâce de Dieu. Ils sont déjà au bénéfice d'une nouvelle naissance, au bénéfice même d'une résurrection, dit Paul. Pour Paul, il y a la vie passée, et puis il y a la vie nouvelle en Jésus-Christ. Alors il dit, faites mourir ce qui en vous appartient encore à la terre. Mais quand même, pourquoi des exhortations aussi radicales? Comment comprendre des exhortations aussi radicales? Eh bien, pour Paul, c'est évident. Peut-être pas pour nous, mais en tout cas pour lui, ça l'est. Parce que si nous sommes ressuscités avec le Christ, et nous le sommes, nos aspirations devraient se situer au même niveau. Rechercher ce qui est en haut, dit l'apôtre. Le salut n'attend pas. Dieu nous sauve en Christ, maintenant, déjà en ce monde où nous vivons avec toutes les difficultés que cela comporte. Le règne de Dieu est parmi vous, annonçait Jésus. Il ne dit pas « il sera parmi vous ». Il est déjà, d'une certaine manière, parmi vous. Christ est roi, déjà, maintenant. Et ça a des conséquences. Nous pouvons vivre en sauver, nous pouvons vivre en sauvé, nous pouvons vivre en citoyen du royaume de Dieu dès aujourd'hui. C'était la conviction de Jésus, c'est la conviction de l'apôtre Paul. C'est même une évidence pour Paul. Pour Paul, il s'est passé avec la mort et la résurrection de Jésus quelque chose qui a changé le monde en profondeur. En Jésus, Dieu s'est approché des impurs, des cupides, des méchants, des grossiers personnages que nous sommes. Et pour ces gens-là, il a pardonné les péchés et vaincu la mort. Depuis la Pâque de l'an 30, la résurrection est d'actualité, frères et sœurs. Il y a beaucoup d'actualités de mort qui nous sont données jour après jour. Mais pour nous, chrétiens, avant toute chose, c'est la résurrection qui est d'actualité. Les Colossiens, alors, étaient attirés par des doctrines étranges qui les faisaient rêver de pouvoir escalader le ciel par différents moyens. Paul rappelle la vanité de ces fuites imaginaires et désespérées. Paul n'a qu'un message pour ses amis. Maintenant, vous êtes ressuscité avec le Christ. Déjà, ils sont ressuscités à une vie qui n'est plus de ce monde. Ils ne ressusciteront pas seulement quand la mort frappera à leur porte et qu'on les déposera dans un cercueil. C'est dommage de ne pas profiter de la résurrection avant quand même. Ils sont déjà vivants avec le Seigneur Jésus. Ils sont déjà dans la vie éternel. Vous êtes déjà dans la vie éternelle, non parce que nous l'aurions décidé, mais parce que c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu en notre faveur. Et leur vie nouvelle, reçue du Seigneur, sera désormais vécue pour lui. C'est ce que Paul leur demande. À eux maintenant de s'approprier personnellement la résurrection de Jésus, le salut par la foi et par l'obéissance. La foi, c'est le oui, l'amen. En vérité, c'est vrai, je crois. Le oui inspiré par Dieu est prononcé devant lui pour lui exprimer notre assentiment, notre accueil intérieur du salut qu'il nous donne en Jésus. La foi, c'est la confiance placée en Christ pour être sauvé en réponse à son appel. Jésus nous appelle, viens à ma suite. La foi, c'est ce oui, je quitte tout et je veux te suivre. Le désir de suivre Jésus, de l'aimer, de s'abandonner entre ses mains pour trouver en lui guérison et salut. La foi est donc inséparable de l'obéissance, parce que croire en Jésus, c'est aussi croire à ses paroles, bien sûr. L'obéissance n'est rien d'autre que la foi en acte, la foi qui porte ses fruits, et c'est la seule manière, ici-bas, pour vivre déjà en ressuscité, pour marcher déjà dans la lumière de Dieu. Paul ne récite pas une morale, il annonce tout simplement Christ avec nous. Il annonce Christ en nous. Jésus, le pur, le pauvre, le doux, le pacifique, la vérité, Jésus est déjà notre vie. Les exhortations qui nous sont apparues radicales de Paul aux Colossiens, c'est tout simplement la vie de Jésus, la visibilité de notre résurrection avec le Christ. Elle porte donc également une promesse. Elle proclame une excellente nouvelle. Paul dit, votre vie est cachée avec le Christ, en Dieu. Nous sommes, ça ne se voit peut-être pas du premier coup, c'est discernable par la foi, mais nous sommes avec le Christ, en Dieu. Il est donc devenu possible de ne plus être, comme dit Paul, débauché, impur, mauvais, avare, injuste, colérique, méchant, obscène, menteur, tout ça et bien d'autres encore. Parce que, dit Paul, nous sommes accompagnés, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le Christ pour être dépouillés du vieil homme avec ses pratiques et pour revêtir l'homme nouveau. Rien n'est plus comme avant. Pour Paul, c'est une évidence dans toutes ses épîtres. Rien n'est plus comme avant. En acceptant Jésus comme sauveur, nous ne l'acceptons pas pour plus tard, nous l'acceptons pour aujourd'hui. Et le lien qui s'est formé entre lui et nous ne saurait nous laisser indifférents, ne saurait nous laisser imperturbables de marbre. Nous sommes touchés au plus profond de nous-mêmes. L'amitié de Jésus nous transforme, il habite en nous par son esprit. Et quand nous vivons dans la foi, Jésus se révèle, Jésus se fait connaître pour renouveler, comme dit Paul, nos intelligences et nos vies. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, une relation forte transforme deux êtres humains. C'est évident dans la vie de tous les jours, une amitié change la vie. Et on constate parfois, c'est d'ailleurs parfois presque comique, que dans les vieux couples, les deux conjoints finissent par se ressembler. Je n'ose pas dire que certains pourraient déjà en témoigner parmi nous. les conjoints finissent par se ressembler. En demeurant dans la foi en Jésus, eh bien, il se passe un peu le même phénomène. Nous sommes renouvelés à sa ressemblance. Une relation vivante existe avec le Seigneur qui nous met en chemin pour retrouver la beauté que Dieu a voulu pour chacun de nous, pour retrouver notre humanité véritable. Dieu veut que, en Christ, notre vie soit un chef-d'œuvre. Pas mal quand même, un chef-d'œuvre. C'est dans la création de la Genèse, quand il a créé l'homme et la femme, Dieu s'émerveille. Dieu vit que cela était beau et bon. Eh bien, le projet de salut de Dieu, c'est que cela redevienne beau et bon par la fréquentation que nous pouvons avoir avec Jésus le Christ. Nous revêtons, dit Paul, l'homme nouveau, celui qui, pour accéder à la connaissance, ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur. Nous sommes créés à l'image de Dieu, de notre Créateur. Et vivre avec le Christ est une nouvelle création. Une nouvelle création à l'image de son Créateur, donc dit Paul. En vivant avec Jésus, nous nous laissons transformer par celui qui est parfaitement l'image du Dieu invisible. Ce sont les paroles de Paul au début de l'épître aux Colossiens. Christ est parfaitement l'image du Dieu invisible. Et Paul n'a pas de mots assez forts pour parler de la gloire du Christ. Il aborde le mystère de la personne de Jésus par touches successives, sous différents aspects, pour mieux faire ressortir l'éclat de sa splendeur, pour que ses amis de Colosse, comme il le dit, progressent dans la vraie connaissance de Dieu. N'est-ce pas formidable? Et n'est-ce pas là le cœur, d'une certaine manière, de notre foi? Connaître le Christ, c'est connaître Dieu. Connaître le Christ, c'est connaître Dieu. Alors, Paul écrit des tas de choses sur Jésus dans sa lettre aux Colossiens. Il écrit que Christ est le premier-né de toute créature. Il écrit qu'en lui, tout a été créé. Dans cet homme de Nazareth, c'est ahurissant. Il écrit qu'il est par-devant tout. Il précède toute chose. En Jésus-Christ habite toute la plénitude de la divinité. Et il le dit deux fois dans l'Épître aux Colossiens. Christ est le mystère de Dieu. Il est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. Et on l'a vu dans notre passage, Paul rappelle encore que Christ est en haut, assis à la droite de Dieu. Et toutes ces expressions pourraient se résumer en celles que Paul affectionne par-dessus tout. Si vous ne savez pas quoi faire, pendant l'été, vous vous amuserez à compter combien de fois ça revient dans toutes les épîtres de Paul. Hein ? Le Seigneur Jésus-Christ. Christ Jésus, notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, en 2.6, en Colossiens, Christ Jésus, le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus n'est pas seulement le roi des rois, mais qu'il est encore bien au-delà de tout ça. Il est celui à qui nous rendons l'honneur suprême, nous l'avons chanté dans le cantique, à l'agneau sur le trône. Il est le Seigneur du ciel et de la terre, et aussi le Seigneur de nos vies. Et Seigneur, c'était le mot que l'Ancien Testament donnait à Dieu lui-même. Cela signifie qu'il est le Fils de Dieu, mais qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il est Dieu le Fils. Qu'il est Dieu le Fils. Comme le dit Thomas le jour de Pâques devant Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Paul n'avait pas peur de proclamer cela. Tout juif qu'il était, c'était un blasphème passible de mort. D'ailleurs, ce qu'on a reproché à Jésus lui-même, pour la religion juive, d'oser affirmer que Dieu lui-même se fasse homme. C'était incompréhensible pour les Grecs. C'était séditieux, révolutionnaire, passible de mort, bien sûr, pour les Romains, de prétendre avoir un autre seigneur que l'empereur. Et pourtant, Paul ose le faire. Il le sait. Ce que Jésus annonçait de lui-même a été confirmé de manière éblouissante, de manière éclatante par sa résurrection. Et Paul en a fait l'expérience bouleversante en rencontrant le ressuscité. Il sait qu'il a rencontré la vie et la lumière de Dieu. La vie et la lumière de Dieu en faveur de nous tous. Paul n'a pas de doute. Oui, maintenant, chers Colossiens, maintenant, chers amis de l'église de Lons, votre vie est avec le Christ en Dieu. Dieu est avec nous dès maintenant en Christ, comme il l'avait été avec ses apôtres. Paul dit même, Christ est votre vie. Comprenez mieux pourquoi il pouvait être exigeant avec ses amis de Colosse et avec nous-mêmes, parce que Christ est notre vie. Parce que, alors, dans ce cas-là, tout est possible. Tout devient possible. En le croyant, en plaçant en Jésus notre confiance, il est possible de faire mourir ce qui en nous appartient à la terre, dit Paul. Il est possible de faire mourir ce qui nous pousse vers le bas, ce qui nous fait tomber, ce qui nous détruit, ce qui nous perd. Ah, ce n'est pas forcément facile. Jésus lui-même a eu une vie remplie d'embûches, d'épreuves, de tentations, de souffrances. Jésus a même dû combattre le diable, et Paul aussi. Mais Jésus l'a combattu victorieusement. Et c'est pourquoi la victoire n'est possible qu'avec lui, avec son aide, dans l'élan de sa vie divine. Alors, Paul le redit avec joie et reconnaissance aux Colossiens. Une liberté nouvelle est à leur portée. Vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, alors poursuivez en lui votre route. Marcher avec lui sur le chemin de la vraie vie, de la belle vie, du chef-d'œuvre que peut devenir votre vie. Amen.